La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Pourquoi donc les jurés populaires sont-ils plus cléments en Corse ? Et plus généralement, pourquoi donc sont-ils plus cléments dès qu'il s'agit d'une affaire corse ? Voilà les questions qui sous-tendent le papier que Violette Lazare signe cette semaine dans l'Obs. Papier qui nous apprend que 3 enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer si des jurés populaires ont pu être influencé lors d'importants procès d'assises en lien avec l'île de Beauté. Des enquêtes pour soupçons de corruption ou de pression sur des jurés. La première concerne le procès Orsoni, lequel s'est tenu en 2015 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. 11 membres du clan Orsoni jugés pour l'assassinat de 2 proches de la bande rivale, la bande du Petit Bar. Pourtant, au terme des débats, quelques condamnations pour association de malfaiteurs, mais aucune pour assassinat, les 11 membres du clan Orsoni ont tout simplement été acquittés. Les 2 autres enquêtes concernent cette fois 2 procès d'assises qui se sont déroulés à Bastia. Tout d'abord le procès de la fusillade de la place Porta à Sartène en Corse du Sud. Sanglant, règlement de compte, 1 mort, 1 blessé grave. En première instance, Jacques Ettori, soupçonné d'être l'un des 2 tireurs, avait été condamné à 18 ans de prison et puis en appel bizarrement, le voilà finalement acquitté. Et puis acquitté également le principal suspect de l'attaque du fourgon blindé de Saint-Florent en Haute-Corse. Un raid spectaculaire qui avait permis de dérober 300 000 euros. Le butin n'a jamais été retrouvé. Et dans ce dernier cas, comme dans le précédent, ce sont des renseignements anonymes qui ont déclenché l'ouverture des investigations. Des renseignements évoquant donc des pressions sur les jurés. Aucune des 3 enquêtes n'a pour l'heure abouti. Mais tous les témoignages recueillis dépeignent un climat étouffant, presque terrorisant, sachant que les techniques d'intimidation ne manquent pas. Des jurés ont évoqué les regards insistants d'une personne assise au premier rang de la salle d'assises, et ce, du premier au dernier jour du procès pour lequel ils avaient été tirés au sort. Si c'est le porte-flingue d'un des clans mis en cause, le message passe immédiatement, relève un magistrat, en agitant qu'en Corse, un seul regard suffit. Il suffit parfois de pas grand-chose. À bon d'un de ses collègues, actuellement en poste sur l'île, et il se met alors à mimer une petite scène, accent corse à l'appui. Il est arrivé qu'un juré soit approché la veille de l'ouverture des débats. Ici, tout le monde se connaît, et on lui a alors demandé « Alors, dis demain, tu fais quoi ? Tu es au procès ? Et sinon, la santé, ça va ? Oui ? Eh ben, pourvu que ça dure !» Et voilà, ça suffit, conclut le magistrat. Des menaces plus ou moins discrètes, mais des menaces tout de même, voilà qui pourrait expliquer que les jurés populaires soient plus cléments en Corse ou plus généralement dès qu'il s'agit d'une affaire corse. Raison pour laquelle le procureur de Bastia et d'autres magistrats de la lutte anti-mafia demandent que pour ces affaires-là, les jurés populaires soient à l'avenir remplacés par des juges professionnels. Impossible justice en Corse, c'est le titre de l'enquête de Violette Lazare, à lire donc cette semaine dans l'Obs.
Et après la Corse, nous prenons la direction de la Sicile.
Et de la ville de Taormina, qui depuis hier accueille le sommet du G7, la première journée de travail, n'a pas vraiment permis d'aplanir les divergences des chefs d'État et de gouvernement présents. Quelques terrains d'entente, notamment sur la lutte contre le terrorisme. Mais à propos du commerce et de l'environnement, difficile de faire fléchir le président américain. Échange crispé entre Trump et les Européens, constate ainsi Le Monde, en rappelant que normalement, dans un sommet de ce type, l'essentiel de la déclaration finale est bouclé avant même la rencontre. Mais là, ce n'est pas le cas. La Maison-Blanche mettant en avant ses volontés protectionnistes, ça c'est pour le volet commerce, et menaçant aussi de ne pas appliquer l'accord de Paris sur le climat, ça c'est pour le volet environnement. Il n'y a pour le moment aucun accord sur un texte, explique-t-on à l'Élysée, où l'on n'exclut pas qu'à l'issue des discussions, il y ait un texte totalement vide, voire pas de texte du tout. Le G7 de Taormina ne déroge pas à la règle qui fait de ces réunions des événements médiatiques plus que politiques. Se désole ce matin Bruno Meige dans la montagne. Et le moment est venu d'expliquer à Donald Trump qu'il y a pire que les terroristes, il y a les irresponsables. S'emporte Jean de Valois dans la presse de la Manche. Les irresponsables, poursuit-il, ce sont ceux qui s'enferment dans une stupidité meurtrière, nier le réchauffement du climat et refuser d'honorer la signature de l'Amérique à la COP21. C'est se comporter en ennemi du genre humain, écrit-il. C'est engendrer pour l'avenir des catastrophes. C'est tuer la planète. Pas sûr toutefois que Donald Trump soit sensible à ce genre d'argument.
Peut-être en revanche sera-t-il sensible aux dernières révélations du Washington Post.
Le quotidien américain a affirmé hier soir que Jared Kushner, le gendre de Trump, le mari de sa fille Ivanka, aurait demandé lors d'une rencontre avec l'ambassadeur russe Sergei Kisiak que soit établi un canal secret de communication avec le Kremlin. Une rencontre organisée début décembre. Dans la Trump Tower, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Michael Flynn, aurait été présent lui aussi. Et l'ambassadeur russe, très surpris de la proposition, l'aurait tout de même illico transmise au Kremlin. Un élément de plus dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Élément qui ne peut que confirmer les services de renseignement américains dans leur conviction qu'il y a eu des interactions entre l'entourage de Trump et des cadres de Moscou. L'enquête du FBI sur la Russie touche maintenant la maison Trump, a réagi hier le Parti démocrate. En l'occurrence, elle touche donc Jared Kushner, le gendre. Et l'on attend maintenant de savoir ce que dira son beau-père à propos de cette rencontre organisée dans les bureaux de la Trump Tower.
Une tour bien française fait également la une.
La une du Figaro, il s'agit de l'un des symboles de notre pays. La tour Eiffel cherche plus de revenus et moins de visiteurs. Le mythique monument parisien ne peut accueillir plus de 7 millions de touristes par an. Il est arrivé à saturation. Et c'est pour contenir l'affluence tout en augmentant ses recettes que la direction de la tour Eiffel a prévu d'augmenter de 50% le montant du billet d'entrée. Autre nouveauté, et cela concerne un autre fleuron français, le TGV. C'est fini. C'est le titre à la une d'aujourd'hui, le Parisien. Fini l'appellation TGV. La SNCF a décidé d'enterrer la marque. Et dès cet été, les trains à grande vitesse seront nommés Inouï, I-N-O-U-I, un programme haut de gamme qui viendra compléter l'offre à prix réduit Ouigo. La nouvelle appellation fera son apparition le 2 juillet sur la ligne Paris-Bordeaux. Mais un expert en marketing explique ses doutes au quotidien. Je ne comprends pas, dit-il, pourquoi la SNCF sacrifie pour un simple jeu de mots, Inouï, une marque très puissante. Je ne comprends pas pourquoi elle renonce à ces trois lettres TGV qui résonnaient dans le monde entier. La logique marketing aurait voulu qu'ils choisissent oui TGV. Question du journal, ce nom risque-t-il de se retourner contre l'entreprise? Évidemment, répond l'expert. À la moindre anicroche, la SNCF va avoir des milliers de messages sur les réseaux sociaux, car Inouï, ça renvoie à la promesse d'un service exceptionnel. Or, aujourd'hui, il vaut mieux être humble et faire des promesses qu'on peut tenir. Et le Parti Socialiste doit-il lui aussi changer de nom? Question posée ce matin à la une de Libération Champagne. Le sujet a été mis sur la table par son premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. Mais pour les militants PS, ce n'est pas une priorité, quand bien même un changement pourrait être bénéfique. Au FN également, on évoque depuis des années l'idée de rebaptiser le parti, une idée à laquelle songerait d'ailleurs toujours Marine Le Pen. On la retrouve en photo à la une de Libération ce matin, accompagnée de son bras droit, Florian Philippot. Philippot, l'autre front, c'est le titre. Depuis la défaite à la présidentielle, les désaccords et les crispations se multiplient au Front National. Des désaccords et crispations centrés pour la plupart autour de son numéro 2, ce qui ravive le souvenir des scissions passées, notamment la scission avec Bruno Maigret. Philippot, critiqué pour son souverainisme social, pour son clanisme, mais aussi pour ces matières que l'on dit très hautaines.
Enfin, les journaux font le bilan du Festival de Cannes.
Bilan en demi-teinte de la vie générale. Les critiques évoquent une sélection globalement assez décevante. Et l'heure est ce matin au pronostic pour le Parisien. C'est Robert Pattinson qui mériterait de décrocher le prix d'interprétation masculine et Diane Kruger, la délicieuse Diane Kruger, mériterait de remporter le prix d'interprétation féminine. En revanche, pour le Figaro, c'est plutôt Louis Garrel qui mériterait de décrocher le prix d'interprétation masculine et Diane Kruger, le prix de la pire actrice. Visiblement, il y a débat. Et c'est donc demain soir que les jurés du Festival de Cannes rendront leur verdict. Pour l'heure, aucun d'entre eux n'a signalé qu'il avait eu à subir la moindre menace ou intimidation.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.